France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, le destin oublié de Paulette et Jeanne Nardal, pionnières de la conscience noire. Le 26 juillet 2024, pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, 10 statues d'or, 10 statues de femmes françaises illustres, surgissent monumentales au pied du pont Alexandre III. Parmi elles, les célèbres Olympe de Gouges, Louise Michel ou Simone de Beauvoir, mais aussi une femme dont beaucoup ne connaissent ni le nom ni le visage, Paulette Nardal. Avec sa sœur, Jeanne, elle fut pourtant une précurseur de la négritude, ce mouvement littéraire des années 30 qui marqua un tournant dans la reconnaissance des identités noires face au colonialisme et au racisme. Mais de la négritude, on a surtout retenu les pères, Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, Léon Gontran Damas, dont l'éclat a relégué ces femmes dans l'ombre. Quel était leur rôle dans la naissance du concept de négritude ? Pourquoi en ont-elles ensuite été écartées et pourquoi l'histoire les a-t-elle oubliées? C'est ce que nous essaierons de comprendre avec notre invitée après le récit, Léa Mormin-Chauvac, autrice du livre « Les sœurs Nardal à l'avant-garde de la cause noire », publié cette année aux éditions Autrement. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Jeanne Maillard, rédaction en chef Franck Cognard, chargée de programme Rebecca Donnante, réalisation Stéphane Combe.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
Fort-de-France, nous sommes au début du XXe siècle. Dans la grande maison coloniale du 83 rue Schœlcher, Sidonie et Paul Nardal reçoivent beaucoup. Leurs 7 filles, Paulette, Émilie, Alice, Jeanne, Lucie, Cécilie et André, sont de tous les dîners, de tous les bals, de tous les récitals. Le père, Paul, est le petit-fils de Sidonie Nardal, né esclave en Martinique et reconnu libre en 1850. Diplômé des arts et métiers, il est aussi le premier ingénieur noir en travaux publics. Sa femme, Louise Achille, est née dans une famille de mulâtres, un terme colonial pour dire métisse, qui désigne à l'époque en Martinique une classe sociale, bourgeoise, autant qu'une couleur de peau. Catholique progressiste, engagée dans des œuvres caritatives, la mère de famille offre à ses 7 filles une enfance joyeuse. L'aînée Paulette est née le 12 octobre 1896, 48 ans après que l'esclavage a été aboli dans cette colonie française. Comme ses sœurs, elle apprend la musique avec leur mère, pianiste chevronnée, et l'anglais, au contact des Caribéens anglophones que leurs parents côtoient. Les sœurs Nardal étudient également la littérature, l'histoire de l'art et les musiques européennes. Européenne et blanche, car au début du XXe siècle, le blanc est la norme, et la bourgeoisie martiniquaise entend bien prouver qu'elle instruit ses enfants comme il faut. Peau noire, masque blanc. C'est donc pétri de culture blanche que l'aînée, Paulette Nardal, et sa cadette, Jeanne Nardal, arrivent à Paris au début des années 20 pour étudier à la Sorbonne. Ses premières années dans l'Hexagone sont un choc, le choc de se découvrir noir. Leur sœur, Alice Nardal, se souvient, dans un entretien mené par Philippe Goldmund, dans son ouvrage « Fierté de femme noire ».
Paulette a été la première étudiante noire en Sorbonne. Jane était en lettres, c'était quelque chose. Elle a remis un devoir et le jour de la remise des textes, le professeur a dit « Le meilleur devoir, mademoiselle Nardal ». Il regarde. Il y avait déjà des ricanements dans l'amphi. Le professeur a eu un sursaut. Il s'en est voulu mortellement après. Mais mademoiselle, vous êtes française, mais vous êtes... Alors ma sœur dit « Je suis de la Martinique ». « Ah, si j'avais su, a-t-il répondu, je vous aurais donné 16 plus ». À partir de ce moment, plus de ricanements, rien du tout. Si elle laissait tomber un crayon, il y en avait 20 qui se précipitaient pour le ramasser.
Dans les couloirs de la Sorbonne, il y a des regards, des remarques parfois. On alpague les sœurs Nardal, on s'étonne de leur réussite aux examens. C'est la plus foncée, mais c'est la plus intelligente, dit-on de Jeanne, comme si l'un empêchait l'autre. Dans les années 20, quand il s'agit des Noirs, la métropole coloniale hésite entre clichés racistes et fascination. En musique, dans la peinture, en littérature, La mode est à une Afrique rêvée et plus généralement à l'exotisme. Picasso découvre l'art dit primitif et les masques africains. Paul Poiret dessine pour les femmes des turbans colorés. On s'émerveille des rythmes du jazz, perçus comme africains et sauvages. La littérature exotique, alors très en vogue, fantasme les colonies, sans craindre les stéréotypes. La nature est toujours luxuriante, paradisiaque, et les femmes animales, à la fois sauvages et dociles. En 1928, lasse d'être réduite à un objet érotique, Jeanne Nardal écrit « Pantin exotique », un article où elle dénonce le regard exotisant des Parisiens. Elle a 26 ans.
Vient-on à savoir ou à s'apercevoir que vous êtes exotique ? Vous suscitez un vif intérêt, des questions saugrenues, les rêves et les regrets de ceux qui n'ont jamais voyagé. Oh, la jolie plante tropicale ! Semble s'émerveiller des interlocuteurs en mal de voyage. Quelle déception pour celui qui évoque en votre honneur des princesses exotiques si vous alliez lui dire que, tout comme une petite bourgeoise française, vous poursuivez à Paris des études commencées là-bas, sous les tropiques, au lycée.
Celle que le tout Paris des années folles considère comme la plus belle des plantes tropicales, c'est Joséphine Baker, qui fait sensation avec sa célèbre revue nègre. Les seins nus, vêtus d'une ceinture de banane, la danseuse américaine joue avec les clichés du public parisien et, ce sont les mots de Jeanne Nardal, fait la soudure entre la forêt vierge et le modernisme. Jeanne Nardal et sa grande sœur Paulette Nardal regardent la star américaine avec un certain recul, mais non dénué d'admiration. Le succès d'une femme noire à Paris, c'est trop rare pour ne pas être applaudi. Mais pour les sœurs Nardal, le Paris des années folles ne se résume pas à ce que l'on projette sur elle. Non, la capitale est alors un carrefour où transitent des étudiants, des intellectuels et des artistes noirs venus des colonies antillaises et africaines, mais aussi des États-Unis. Paulette et Jeanne Nardal se lient avec le Martiniquais René Maran, prix Goncourt 1921, le premier pour un homme noir, et s'émerveille devant la cantatrice afro-américaine Marianne Anderson ou le ténor Roland Hayes. Mais la grande découverte qu'offre Paris à ses férues de musique, ce sont les Negro Spirituals. Pour Paulette Nardal, c'est une révélation. Et elle se souvient des années plus tard, dans un entretien avec le pianiste Paul Rosine.
Arrière petite fille d'esclave, élevée dans l'admiration des classiques européens, Paulette Nardal redécouvre à Paris une part de son identité. « Nous faisions connaissance avec l'histoire des Noirs », écrira-t-elle. Joséphine Baker, René Maran, Roland Hayes et les Negro Spirituals, pour la première fois, les sœurs Nardal ressentent dans leur âme l'existence d'une culture dont les racines se trouvent en Afrique. Et elles en sont fières.
En 1928, Paulette Nardal a 32 ans. Elle vit en métropole depuis 8 ans, dans un appartement modeste qu'elle partage avec ses sœurs cadettes, Jeanne et André, à Clamart, en région parisienne. C'est là, dans ces deux pièces du 7 rue Hébert, que les trois jeunes femmes vont commencer à faire salon, oui, salon, chaque dimanche après-midi. Comme leurs parents à Fort-de-France, les sœurs Nardal reçoivent. Toutes générations confondues, artistes, étudiants, écrivains, professeurs et militants se mêlent, réunis par leur couleur de peau et leur désir d'échanger des idées. Le politicien guyanais Félix Eboué croise ainsi l'étudiant sénégalais Léopold Sédar Senghor ou des figures du mouvement américain de la Harlem Renaissance, les écrivains Claude McKay, Langston Hughes et Alan Locke. La Harlem Renaissance, c'est depuis le début des années 20 un véritable renouveau pour la culture afro-américaine. Un mouvement qui valorise l'héritage africain à travers la poésie, la littérature, le jazz ou la peinture. 60 ans après l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, l'élite noire américaine entend ainsi exprimer son identité, et avec fierté. Paulette Nardal s'en souvient dans ses mémoires.
La fierté noire ne se fit jour dans ma conscience claire qu'après avoir entendu les Negro Spirituals et fréquenté les intellectuels américains. Claude McKay, Langston Hughes, Alan Locke. Celui-ci est l'auteur du New Negro qui a marqué une ère dans l'évolution de la pensée des Noirs d'Amérique. C'était un vieux monsieur très distingué, le teint cuivré, les cheveux gris, des manières vieille France, et Marcus Garvey. Je l'ai reçu un soir. Ah, je me souviendrai de cette soirée, parce que ce que j'ai dû travailler, mon Dieu, On m'a fait tout traduire parce que Marcus Garvey ne connaissait pas le français. Réellement, j'étais knock-out après.
Le Jamaïcain Marcus Garvey, futur prophète du mouvement Rastafari, est alors un militant qui promeut l'unité du monde noir et le retour des descendants d'esclaves en Afrique. Parce qu'elle parle anglais, les sœurs Nardal facilitent les échanges entre l'intelligentsia noire, francophone issue des colonies antillaises et africaines, et les penseurs américains de la Harlem Renaissance. Et c'est en cela que leur salon est unique. Parce que, au-delà des océans, il nourrit et consolide une conscience commune, que Paulette Nardal nomme « conscience de race ». Ce terreau fertile donnera bientôt naissance, en France, à un mouvement fondateur, la négritude. À l'époque, le mot n'existe pas encore. Mais Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor, ces chantres les plus connus, ont déjà fait connaissance au lycée Louis-le-Grand, à Paris, en 1928. Senghor, futur président du Sénégal, n'a alors que 22 ans, et il fréquente régulièrement le salon des sœurs Nardal. C'est d'ailleurs Paulette qui l'inscrit à la Sorbonne, à la demande de son ami l'écrivain René Maran. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, les sœurs Nardal.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Dans leur salon de Clamart, les sœurs Nardal ne se contentent pas de mettre en contact les grands penseurs de la cause noire, antillais, africains et afro-américains. Dès les années 20 et la fin des années 20, Paulette et Jeanne développent une pensée propre. Et leurs idées vont infuser la pensée de la négritude. Ce mouvement littéraire qui s'apprête à éclore sous les plumes d'Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor et Léon Gontran Damas, tous visiteurs occasionnels ou réguliers du Salon des Nardal. Ces idées, ce sont celles que développe Jeanne dans le premier numéro de La Dépêche africaine, le journal qu'elle a participé à fonder en février 1928 et qui tire à 15 000 exemplaires. Elle écrit notamment le fondateur Internationalisme Noir, un article dans lequel elle appelle les Noirs du monde entier à s'unir pour défendre collectivement leurs intérêts. Une réflexion novatrice en France, que sa sœur Paulette va poursuivre dans la Revue du Monde Noir qu'elle crée en 1931. Et voilà comment ce journal bilingue français-anglais est alors présenté.
Ce que nous voulons faire, donner à l'élite intellectuelle de la race noire un organe où publier les œuvres artistiques, littéraires et scientifiques. Étudier et faire connaître tout ce qui concerne la civilisation nègre et les richesses naturelles de l'Afrique, patrie trois fois sacrée de la race noire. Créer, entre les Noirs du monde entier, sans distinction de nationalité, un lien intellectuel et moral qui leur permette de mieux se connaître, de s'aimer fraternellement, de défendre plus efficacement leurs intérêts collectifs et d'illustrer leur race, tel est le triple but que poursuivra la Revue du Monde Noir.
Avec ses sœurs, Jeanne et André, Paulette Nardal bénéficie d'une position particulière dans la société parisienne des années 30. Elle est noire, indépendante et intellectuelle, autrement dit loin des fantasmes que véhiculent notamment les music-halls de la capitale. Mais elle est aussi une femme noire. Et c'est le point de départ d'une réflexion nouvelle à l'époque. En 1932, à 36 ans, elle publie « L'éveil de la conscience de race ». Un article considéré aujourd'hui comme l'un des premiers textes des féministes noires. Paulette Nardal y évoque le sentiment de déracinement des Antillais à Paris et surtout des Antillaises. Un sentiment qui s'explique, selon elle, le besoin de s'unir et de vivre collectivement. Ce sont ses mots. Vivre leur fierté d'appartenir à une race dont la civilisation est peut-être la plus ancienne du monde.
Les femmes de couleur vivant seules dans la métropole, moins favorisées que leurs congénères masculins au facile succès, ont ressenti bien avant eux le besoin d'une solidarité raciale qui ne serait pas seulement d'ordre matériel. C'est ainsi qu'elles se sont éveillées à la conscience de race. Au cours de leur évolution, leur curiosité intellectuelle s'est tournée vers l'histoire de leur race et de leur pays respectifs.
Affirmation d'une solidarité raciale, revalorisation de l'Afrique, expression culturelle des identités noires, les idées des sœurs Nardal résonnent profondément avec celles que développent les penseurs de la négritude quelques années plus tard, le prisme féministe en moins. Alors, ce mouvement de la négritude, eh bien, il naît de la rencontre de trois étudiants issus de trois colonies françaises. Le Martiniquais André Césaire, le Guyanais Léon Gontran Damas et le Sénégalais Léopold Sédar Senghor. Au début des années 30, ils font la rencontre des penseurs de la Harlem Renaissance chez Paulette et Jeanne Nardal, à la fois intermédiaire et traductrice, et bénéficient de l'énergie de ce stimulant laboratoire d'idées. C'est à cette époque que les trois étudiants commencent à dessiner une nouvelle identité noire, francophone, loin de l'oppression coloniale et de son racisme. Négritude. C'est en 1935 que le mot est utilisé pour la première fois par Aimé Césaire dans le journal qu'il a créé, L'étudiant noir. 3 ans avant son célèbre cahier d'un retour au pays natal et 20 ans avant les mouvements indépendantistes africains qu'il inspirera. Senghor l'a défini ainsi à la télé en 1963.
La négritude, c'est en d'autres termes la personnalité africaine. C'est l'ensemble des valeurs de civilisation du monde noir. Quel peut être le but d'un écrivain noir, d'un poète noir ou même d'un politique noir? C'est de défendre et illustrer sa personnalité collective, sa négritude. La négritude n'est pas fermeture sur soi, n'est pas racisme. La négritude est au contraire ouverture à tous les apports des autres civilisations, car nous pensons que toute grande civilisation est métissage.
Mais alors que ceux qu'on appellera les chantres de la négritude écrivent et théorisent, la famille Nardal, elle, fait face à de douloureuses épreuves. En 1935, André, la plus jeune des sœurs, venue dans l'Hexagone pour étudier la musique, meurt à 26 ans d'une méningite foudroyante. Jeanne, qui s'est mariée, rejoint la Martinique pour enseigner, tandis que Paulette travaille à Paris comme secrétaire du parlementaire socialiste martiniquais Joseph Lagrosilière, puis de Galandou Diouf, élu député du Sénégal en 1934. Célibataire et sans enfant, à la différence de ses sœurs, Paulette Nardal trouve dans ce statut une façon d'affirmer son indépendance. Mais la guerre va venir entraver sa liberté d'être qui elle veut. En 1939, alors que Paulette rentre à Paris d'un séjour en Martinique, un sous-marin allemand torpille le bateau sur lequel elle voyage et le coule. Elle raconte dans ses mémoires.
Il fallait descendre dans le canot de sauvetage. Et là, j'ai trouvé les bagnards de Guyane, libérés, en train de se battre à coups de couteau pour pouvoir profiter de l'échelle de corde. Quand j'ai vu cela, je me suis dit que je ne pourrais jamais. Je ne suis pas sportive. Je ne pourrais jamais prendre la corde à nœuds. Terrible souvenir, lorsque je suis tombée au fond du canot. J'ai vu mon genou gauche entièrement ouvert et la tête des os. Une vraie boucherie. Je devais terminer ma vie comme infirme.
Paulette Nardal, 43 ans, passe 11 mois à l'hôpital de Plymouth, en Angleterre. Elle en sort marquée à vie. Non seulement dans son corps, puisqu'elle marche désormais difficilement, mais également dans son esprit, traumatisée par le naufrage et la solitude qu'elle a dû endurer dans un pays étranger en temps de guerre. En octobre 1940, elle rentre définitivement en Martinique, où elle s'installe dans la maison familiale avec ses parents et ses sœurs. Leur mère, Louise, meurt en 1942, à l'âge de 73 ans, suivie d'un jeune neveu engagé dans la résistance. Paulette Nardal et ses sœurs observent avec désolation l'amiral Robert imposer en Martinique un régime de censure et de surveillance politique au service du maréchal Pétain. C'est aussi sur l'île un temps de privation et de pénurie. Pour se vivre, Paulette Nardal compte sur l'octroi d'un statut de victime de guerre. Mais l'administration coloniale le lui refuse et elle donne alors des cours d'anglais à de jeunes Martiniquais, dont certains veulent rejoindre la dissidence via des îles anglophones voisines. Sur l'île aux fleurs, comme ailleurs, l'histoire avance avec son lot d'horreur et d'espoir. Le 3 juillet 1943, l'amiral Robert remet ses pouvoirs à un comité provisoire rallié à la France libre et les forces américaines débarquent pacifiquement sur l'île. Un an plus tard, les femmes des vieilles colonies, Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion, obtiennent le droit de vote comme le reste des citoyennes françaises.
Dimanche, toute la France va voter. Avant-guerre, beaucoup d'encre et de salive coulait à cette occasion. Mais cette année, il en coule au moins autant, sinon plus, car cette année, les femmes vont voter. Comment vont-elles voter? D'ailleurs, voteront-elles? Et pourquoi ne voteraient-elles pas? Dans quel sens vont-elles voter? Autant de questions et bien d'autres que se posent chacun. Et les femmes les toutes premières, je crois.
Alors, comment inciter les femmes à aller voter? C'est la question que se pose Paulette Nardal à l'approche des élections municipales qui doivent se tenir en mai 45. Dans ce but affiché, elle crée le Rassemblement Féminin, une association qui vise à familiariser les Martiniquaises avec la pratique électorale, ainsi qu'un journal, La Femme dans la Cité. Éducation des femmes à la vie civique, réflexion sur leur rôle dans la famille et dans la société, conseils pour la vie quotidienne. Jusqu'au début des années 50, elle y fait la promotion d'un féminisme issu du catholicisme social, elle dont la foi s'est accrue à la suite de son accident. Paulette Nardal se dit apolitique, mais elle inscrit son action dans une ligne démocrate chrétienne et gaulliste. En 1945, lors des élections municipales à Fort-de-France, elle ne vote pas pour le candidat communiste Aimé Césaire, élu maire avec plus de 70% des voix. Il conservera son mandat pendant 56 ans en monolithe charismatique et tutélaire.
Pour Césaire, on avait une admiration béate. Même ceux qui ne comprenaient pas ce qu'il disait. Il y a eu succès pour l'action de Césaire et j'en revendique un peu en matière de négritude ou de fierté noire. Au fond, les Noirs étaient fiers de voir l'audience que Césaire avait. Malheureusement, la politique s'en est mêlée. Évidemment, il fallait utiliser cela à des fins politiques.
Si Paulette Nardal se montre amère envers Aimé Césaire, c'est peut-être aussi parce que le chantre de la négritude ne reconnaît pas le rôle qu'ont joué les sœurs Nardal dans la prise de conscience collective, dont il est pourtant l'emblème. Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor, un fidèle du Salon Clamart, évoquent régulièrement et publiquement l'influence des auteurs afro-américains de la Harlem Renaissance sur leur pensée, mais jamais les penseurs de la négritude ne rappellent la mémoire des sœurs Nardal, si ce n'est pour en critiquer la superficialité salonarde. Le mot est de Césaire. Pourtant, après un siècle d'oubli, Paulette Nardal et sa sœur Jeanne sont aujourd'hui considérées comme des pionnières majeures de la cause noire et des féminismes noirs en particulier. Alors, pourquoi sont-elles restées dans l'ombre? Parce qu'elles sont des femmes? Être noire et femme constitue un double combat, dont l'âpreté pèse sans doute dans leur parcours. À son biographe Philippe Grolmund, Paulette Nardal raconte.
J'ai souvent pensé et dit, à propos des débuts de la négritude, que nous n'étions que de malheureuses femmes, ma sœur et moi, et que c'est pour cela qu'on n'a jamais parlé de nous. C'était minimisé du fait que c'était des femmes qui en parlaient. Césaire et Senghor ont repris les idées que nous avons brandies et les ont exprimées avec beaucoup plus d'étincelles. Nous n'étions que des femmes. Nous avons balisé les pistes pour les hommes.
Sur le chemin des sœurs Nardal se dressent des obstacles personnels et structurels, des drames intimes ou historiques, des violences racistes et misogynes, des affronts, petits et grands. Il y a des insultes aussi que profèrent parfois d'autres penseurs de la cause noire, notamment en Martinique. Quand Émilie Nardal, la sœur de Paulette, fait le choix d'un candidat de droite aux élections de 1945, l'avocat martiniquais Georges Gracian a ces mots « Ces femmes noires qui ont la nostalgie du fouet ». Quant au poète Gilbert Gracian, le frère de Georges, il n'hésite pas à comparer Paulette Nardal à la Vénus Hottentote, cette femme noire qui avait été exhibée à travers l'Europe au début du XIXe siècle. Une référence étonnante, qui fait symboliquement de Paulette Nardal l'esclave des Blancs. Car il faut comprendre que les frères Gracian, comme Aimé Césaire, sont communistes, tandis que Paulette Nardal est gaulliste, catholique, fervente d'ailleurs, bourgeoise et très attachée à la France. Certes, elle œuvre à l'émancipation des Noirs, mais certains en Martinique la jugent trop modérée pour être estimée, trop assimilationniste, c'est-à-dire qu'elle défend la pleine intégration de la Martinique à la République et non l'autonomie ou l'indépendance. Paulette Nardal s'en explique.
Ne pas commettre l'erreur de nous considérer comme les militantes d'un quelconque parti politique. Nous avons seulement ressenti très vivement la nécessité de faire entrer l'homme noir dans la communion des humains et de lui enlever ses complexes. Tout cela est fort compatible avec notre attachement très profond à la France, notre grande patrie. Nous trouvons stupide l'idée de l'indépendance des Antilles. Et je ne supporte pas d'entendre ceux qui s'expriment très bien en français retourner leur culture contre la France et récuser leur assimilation.
En 1956, un nouveau drame frappe les sœurs Nardal. Et il explique peut-être, tout au moins en partie, pourquoi leur travail a si longtemps été oublié par les historiens. L'aînée, Paulette Nardal, a retrouvé Fort-de-France après avoir vécu un temps à New York où elle a travaillé comme déléguée des territoires non autonomes à l'ONU. Elle vit avec ses six sœurs et son père au 83 rue Schœlcher quand la vaste demeure familiale, tout en bois, est ravagée par un incendie. Correspondances, manuscrits, revues, photos, dessins, toutes les archives des sœurs Nardal disparaissent dans les flammes. Tout un héritage personnel et historique qui part ainsi en fumée avant d'avoir pu être exploité. L'incendie affecte profondément la famille, d'autant qu'une autre mémoire s'éteint peu après. Paul Nardal, le père tant aimé, tant admiré, meurt en 1960. Tandis que ses filles s'éloignent peu à peu de la vie publique et politique, leur engagement trouve d'autres formes d'expression. La Martinique, devenue département français en 1946, connaît dès les années 50 un renouveau culturel. Le patrimoine martiniquais est reconnu, ses racines afro-caribéennes sont célébrées, et la langue créole, longtemps stigmatisée par les autorités coloniales, commence à être réhabilitée. Avec sa sœur, Alice Edapierre, Paulette Nardal travaille d'abord à documenter les musiques et les danses populaires des campagnes. En 1954, elle crée la chorale Joie de chanter, avec l'idée de rendre hommage aux Negro Spirituals, ces chants d'esclaves noirs américains qu'elle a découverts à Paris 25 ans auparavant. Elle met également en avant le patrimoine de l'île, en harmonisant des chants traditionnels martiniquais. Et c'est un succès. Joie de chanter devient une institution qu'Aimé Césaire, maire de Fort-de-France, invite à se produire lors de l'inauguration du siège du Parti progressiste martiniquais. Une petite reconnaissance pour Paulette Nardal, suivie en 1966 de la remise d'un titre honorifique qu'elle n'attendait plus de la part de celui qui est devenu, entre-temps, président du Sénégal indépendant, Léopold Sédar Senghor. Voilà les mots prononcés par son vice-recteur, Marcel Lucien, qui remet à Paulette Nardal, 70 ans, le titre de commandeur de l'Ordre national de la République du Sénégal.
La revue du Monde Noir fut un tournant décisif. Vous parliez alors de la civilisation nègre. Lancé quelques 2 ans plus tard, le mot « négritude » devait avoir la fortune que l'on sait. C'est pourquoi je me plais à saluer en vous celle qui me paraît être, avant tout, l'éducatrice des peuples noirs. Pour les esprits superficiels, Paulette Nardal n'aura rien laissé, rien écrit de notoire, rien fait. Mais c'est que la négritude est silence. L'être se dresse devant nous comme une tour de silence, dans sa muette dignité. De plus, de dures épreuves ont approfondi en vous la souffrance. Par là, vous touchez aussi au tréfonds de l'âme noire. Mademoiselle, votre contribution à la défense et à l'illustration de la négritude, c'est d'abord votre exemple.
Cette première récompense, suivie en 1976 de la médaille de la Légion d'honneur en France, marque les débuts du regain d'intérêt que connaîtront les sœurs Nardal. Paulette meurt en 1985, à l'âge de 88 ans, 8 ans avant sa petite sœur, Jeanne, sans savoir que ses travaux seront bientôt mis en lumière des deux côtés de l'Atlantique. Longtemps oubliées, les sœurs Nardal ont pourtant ouvert la voie à la reconnaissance des identités noires. Théoricienne, traductrice, médiatrice, militante, enseignante, musicienne, par tous les moyens à leur portée, et malgré les obstacles, elles ont semé les graines d'une prise de conscience dont les échos dépassent leur temps. Réhabilitées tardivement, Paulette et Jeanne Nardal apparaissent aujourd'hui comme les pionnières d'un mouvement culturel et politique dont l'influence a changé le destin des peuples noirs en inscrivant la solidarité et la fierté au cœur de leur combat.
France Inter. Affaire sensible, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, les sœurs Nardal, dont nous parlons avec notre invitée Léa Mormin-Chauvac. Bonjour.
Bonjour Fabrice Drouel.
Autrice du livre « Les sœurs Nardal à l'avant-garde de la cause noire », livre publié cette année aux éditions Autrement. Vous avez écrit la première biographie consacrée aux sœurs Nardal. Comment les avez-vous découvertes ?
Alors, je les ai découvertes en 2018. Je travaillais à Libération, j'étais journaliste pour les pages ID, et donc mon travail consistait essentiellement à écrire sur les féminismes noirs. Donc, je faisais une veille sur ces sujets, et j'ai découvert un peu par hasard la parution du livre de mémoire dont vous avez extrait certains entretiens, les livres publiés par Philippe Grolmound, qui donc avait été fonctionnaire en Martinique dans les années 50, qui avait été membre de la chorale de Paulette Nardal, qui avait enregistré des entretiens avec elle, et puis qui les avait un peu oubliés et retrouvés en 2016. Publié chez l'Harmattan. Donc quand je suis tombée sur ce livre de mémoire, j'étais absolument étonnée, voire choquée de me dire que je ne connaissais pas du tout le parcours de cette femme.
Oui. Alors, notre ligne éditoriale, ce qui fait partie de notre ligne éditoriale, c'est dès qu'on le peut, désinvisibiliser les femmes invisibilisées. Voilà. C'était aussi votre démarche.
C'est pas facile à dire.
Non, oui, c'est aussi. Je suis content.
C'est aussi ma démarche et c'était, je crois, ça s'inscrivait dans une lame de fond qui était quand en 2016-2018 et c'était un travail qui était mené par beaucoup d'autrices, par beaucoup de militantes, par notamment des figures afroféministes. Et donc, moi, j'ai un petit peu poursuivi ce travail et je m'inscrivais aussi dans cette démarche et ce mouvement, oui, tout à fait.
Alors, pourquoi ont-elles été oubliées ? Parce que l'incendie qui a ravagé toutes les archives n'explique pas tout. C'est parce que l'histoire est écrite par des hommes, c'est ça ? On dit souvent ça, mais il y a peut-être autre chose.
L'histoire est écrite par les hommes, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Je pense aussi que... alors, il y a cet incendie et le manque d'archives, le fait qu'elles n'ont pas écrit de livres aussi, et donc beaucoup d'articles de presse, donc forcément, ça a été plus compliqué de les regrouper. Et d'ailleurs, par un hasard assez beau, un recueil de leurs textes d'articles de Paulette Nardal est paru 2 jours après l'apparition de la biographie que j'ai écrite. Donc voilà, c'était assez concomitant.
Vous avez lancé un mouvement
de... Non, bah, c'était, en plus, on ne s'est pas coordonné, donc c'est ça qui était aussi beau et étonnant. C'est un travail un peu collectif. Et puis après, il y a aussi tout un faisceau de... Donc il y a peut-être le fait qu'elles n'aient pas écrit, mais aussi que leurs idées n'étaient pas tout à fait celles qui avaient pignon sur rue à l'époque en Martinique et ailleurs. Il y a le fait aussi qu'il faut reconnaître et savoir la stature de poète d'Aimé Césaire, de Léon Contran Damas, qui a peut-être été une ombre un peu, et de Léopold Sédar Senghor, une ombre un petit peu écrasante pour leurs écrits. Et puis je crois aussi que le rôle de ces femmes et le rôle souvent des femmes, c'est-à-dire ce rôle de médiatrice, ce rôle de mise en relation, ce rôle de traduction, ce sont des rôles un petit peu mineurs hein, dans les mondes de l'art et des rôles qu'on a un petit peu du mal à mettre en avant. Et puis tout simplement, on a un peu du mal à reconnaître aussi l'aspect collectif des mouvements et des idées.
D'autant qu'aux côtés d'Essor Nardal, il existe d'autres autrices, d'autres penseuses noires méconnues. Alors je pense à Suzanne La Cascade, par exemple, mais pas seulement.
Suzanne La Cascade, mais aussi Suzanne Roussy-Césaire.
Eh ben oui.
Oui. Je le redis, je pense que c'était vraiment très difficile pour ces femmes, et pas que pour ces femmes, hein, c'est-à-dire c'est ce dont je parle aussi dans le livre, c'est-à-dire qu'il y avait aussi des concurrents politiques ou d'autres personnalités qui avaient du mal à exister sous la stature d'un homme aussi imposant et doué, hein, voilà, c'est ce qu'il faut dire, mais c'est aussi parce que c'est peut-être un concurrent politique féroce, et puis c'est aussi une époque, c'est encore le cas, mais il faut s'imaginer en 1950, en mars, La misogynie de la société. La Martinique a envoyé une sénatrice qu'en 2017. Il n'y a pas ou peu de femmes politiques en Martinique. Très, très, très peu. Mmh. Et donc, du coup, effectivement, c'était très dur pour elle d'exister.
Alors, toutes les femmes sont blanches, tous les noirs sont hommes, mais nous sommes quelques-unes à être courageuses. C'est le titre d'une anthologie de Gloria Hull, parue en 1982. Les Sœurs Nardal étaient de celles-ci, ces femmes noires qui se battent sur deux fronts à la fois.
Exactement. Et c'est très intéressant que vous citiez ce texte pionnier des féminismes noirs afro-américains, parce qu'en fait, ce qui m'a permis, moi, de travailler sur les Sœurs Nardal, c'est le travail aussi des féministes afro-américaines et d'universitaires afro-américaines. Donc, c'est vraiment un jeu de ping-pong de renvoi des deux côtés de l'Atlantique qui permet aussi aux Sœurs Nardal de réémerger et de réexister médiatiquement et que leur texte soit de nouveau étudié, puisque c'est aux États-Unis où il y a une universitaire qui s'appelle Tracy Denine Sharpley Whiting qui a commencé à réécrire des textes sur les Negritude Women, et ça c'était au début des années 2000, parce qu'elle travaillait sur Fanon et qu'elle était tombée, au détour de sa recherche sur Fanon, sur les Sœurs Nardal et leur salon de Clamart.
Alors on a parlé dans le récit des féministes noires, mais des féminismes noirs, il y en a plusieurs.
Oui, c'est ça, c'est l'idée de dire qu'il y a plusieurs courants de féminisme et que quand on parle des féminismes noirs, tous ne sont pas uniformes, monolithiques. Et par exemple, les Sœurs Nardal, c'est quelque chose qui est souvent un peu mécompris. On a tendance à ne pas comprendre qu'elles n'étaient pas du tout indépendantistes, elles. Vous le dites dans le récit. Et c'est-à-dire que c'est pas parce qu'elles sont femmes et noires qu'elles ont forcément la même position que d'autres féministes noires, par exemple que Suzanne Roussy-Césaire. Et donc, l'idée, c'est de parler de cette multitude d'esprits, de courants. Les féministes ne sont pas les afroféminismes et il y a une multitude de femmes, une multitude de pensées, c'est pas un bloc monolithique.
Et c'est parce que peut-être le raisonnement n'est pas assez simple que ça a concouru à l'invisibilisation.
Je pense que ça a effectivement
participé. On a mis les choses manichéennes,
oui,
clair,
voilà, net. C'est ça, il faut que ce soit clair, net. Là, ça ne l'est pas, on a beaucoup de mal à comprendre leur positionnement. J'invite ceux qui voudraient en savoir un peu plus à lire un livre de Annette Joseph Gabriel qui s'appelle « Imaginer la libération » qui est paru aux éditions Rodebeau Creek et qui explique vraiment très bien du coup ces détails et cette façon pour elle de s'inscrire dans la citoyenneté en étant des femmes noires françaises par de la citoyenneté française.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Léa Mormaz-Chauvac. Est-ce qu'en Martinique, on connaît mieux les Sœurs Nardal qu'en France hexagonale, ou que dans l'Hexagone, ou que dans la métropole, ou en France. Dites-moi, parce qu'il y a un champ lexical qui bouge en ce moment-là.
Moi, je dis France hexagonale. France, métropole, de toute façon, comme
France,
je disais, ça reste quand même un peu un territoire colonial, donc ça marche très bien. Ça rappelle le fait qu'on soit loin pour beaucoup de choses. En tout cas, elles sont connues, les Sœurs Nardal, en Martinique, surtout comme des figures de l'enseignement. C'est-à-dire que les sœurs dont moi je parle moins dans le livre et dont on parle moins publiquement, elles sont très connues en Martinique parce qu'elles ont été proviseurs du lycée de jeunes filles à une époque où, comme le rappelle une des personnes que j'interviewe dans le livre, la liste des bacheliers tenait sur un ticket de caisse. Donc en fait, tout le monde connaissait les figures de... Puis c'est une petite île, la Martinique, hein, donc on connaissait les professeurs, il y avait cette idée qu'elles étaient très très respectées. Et puis, elles sont connues aussi parce que Alice et Paulette ont beaucoup œuvré pour la musique créole. Elles ont créé un concours de la chanson créole, un concours de la chanson de carnaval. Elles ont créé Joie de chanter, qui est vraiment une chorale très pionnière en Martinique et qui
a
essaimé.
Oui,
et puis, elles ont vraiment beaucoup travaillé en même temps que Césaire dans ce grand mouvement comme ça de démocratisation culturelle et de renouveau, de renaissance de la culture créole qu'on dit des mornes, hein, qui était un petit peu méprisée, à redorer son blason. Donc, elles sont connues pour cette partie. Pour ce qui est de leur investissement dans la négritude, du moins dans la cause noire, et de ce qu'elles ont avancé, des choses qu'elles ont faites à Paris, beaucoup moins. Pourquoi ? Parce que c'était aussi des femmes extrêmement humbles et qui n'en parlaient pas. Donc une fois qu'elle soit rentrée, Paris était loin, c'était derrière, c'était aussi difficile. Hein. Après le retour en 39, le traumatisme de l'accident de bateau, le fait de laisser cette vie très loin, le traumatisme aussi de la Seconde Guerre mondiale. Et donc elle n'en parle pas, elle le raconte peu, et peu de gens le savent finalement.
Ouais. Et l'engagement gaulliste, il vient de la période de la guerre, j'imagine.
L'engagement gaulliste vient de la période de la guerre et de l'engagement chrétien-démocrate de Paulette Nardal, qui est un petit peu antérieur. Ça vient de en fait, c'était une fervente croyante. Elle était très catholique, elle était très proche. Elle a eu une sorte d'épiphanie aussi un peu avant la guerre et elle était très proche des dominicains. Et donc, ce courant chrétien-démocrate, c'était celui qui correspondait le plus à sa foi. Elle avait en horreur les communistes puisqu'ils étaient tous les gricots. Donc, et les surréalistes et aussi. Donc, en fait, Jeanne, elle fréquentait les réunions des communistes. Aux Archives nationales d'Outre-mer, à Aix-en-Provence, on retrouve des traces de surveillance de Jeanne dans des réunions communistes. Paulette, c'était plus compliqué pour elle parce que justement, il y avait elle avait en horreur le sectarisme, ce qu'elle appelait le sectarisme des communistes et des surréalistes.
Mais Césaire était communiste et il a été victime aussi du sectarisme des communistes.
Oui, hein, il les a quittés.
Bah oui, une histoire qu'on a racontée il y a quelques jours ici dans Affaires Sensibles.
C'est notre semaine.
Comment ?
C'est notre semaine.
Et oui. La statue de Paulette Nardal, révélée lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, se trouve désormais Porte de la Chapelle à Paris avec les 9 autres statues de femmes émérites. C'est un signe que la mémoire revient, ça c'est clair, c'est une mémoire. Alors c'est une mémoire matrimoniale pour le coup.
Tout à fait, et même si on ne peut pas se contenter de ces représentations, c'est important le nom des rues. Les statues,
oh oui,
le nom des écoles, le nom des lycées, et donc le fait que petit à petit, il y ait en Martinique des établissements qui portent le nom de Paulette et Jeanne Nardal, qui aient des rues, comme cette rue dans le 14e, cette allée à Paris qui porte leur nom, c'est important, parce que finalement on peut se poser la question, qui sont-elles et qui elles ont été, qu'est-ce qu'elles ont fait, et donc ça permet aussi de rappeler leur mémoire, évidemment.
Et votre livre, c'est quoi? C'est un hommage, un geste de sauvegarde, c'est un recadrage? Vous n'êtes pas obligé de choisir, ça peut être tout en même temps, je sais pas.
C'est un travail de journaliste. Un travail de journaliste, c'est parce que c'est le sujet qui m'a occupé pendant plusieurs années, et l'idée, ça a été, avec mon éditrice Claire Fercax, chez Autrement, de retracer, de publier, d'écrire enfin cette biographie en français qui n'existait pas. Et ce qui a été la chance en fait de ce travail, c'est aussi que j'avais co-écrit un documentaire juste avant qui affirmait qu'elles avaient été les oubliées de la négritude. Il est sorti quand je vivais déjà en Martinique. Et donc, les visionnages ont été l'occasion de beaucoup de débats, parfois virulents, avec des personnalités qui ne sont pas d'accord et qui souvent, on continue, m'explique toujours, qu'elles ne sont pas d'accord avec l'idée que les sœurs Nardal ont participé à l'éclosion de la négritude, ont été oubliées, que c'est affirmé trop franchement. Et donc, comme il y a eu ce débat, ça m'a permis de revenir sur mon travail, d'interviewer plusieurs historiens avec qui je n'avais pas parlé. Moi, je continue de dire qu'elles ont oublié de la négritude et qu'elles ont participé vraiment à fonder ce champ. Mais le livre, ça a été aussi l'occasion de remener l'enquête, de prendre plus de temps, et c'est vraiment une grande chance de pouvoir l'écrire.
Bon, alors ça a été un peu des difficultés, mais des difficultés positives, parce que c'est le cheminement intellectuel d'une enquête. Est-ce que vous avez rencontré des vraies difficultés ou d'autres difficultés dans ce travail pour le mener à bien en termes d'accès à l'information?
En fait, au début de l'écriture, il y a eu le problème du manque d'archives, mais je me suis rendu compte que plutôt que du manque d'archives, même si évidemment leurs archives personnelles manquent à cause de l'incendie de 56, c'est aussi que leurs archives sont très, très éparses en fait. Qu'il y a des choses disséminées entre les archives nationales d'outre-mer, les archives territoriales de Martinique, des courriers. C'est pour ça aussi que le travail qui a été mené par les confrères de Rodebeau Creek en rassemblant tous les textes, il était aussi très précieux parce qu'eux travaillaient sur les textes, moi plutôt sur les correspondances intimes, sur des choses. Et en fait, on a tous ensemble rassemblé nos forces pour rassembler des choses qui étaient entre les États-Unis, la Martinique, Paris. Et puis aussi, les affaires de Paulette Nardal, la plupart, elle est partie en vacances avant-guerre. La déclaration de guerre a éclaté quand elle était en Martinique. Et donc, elle a tout laissé en France, ça a été récupéré par sa famille. Donc il y a beaucoup d'archives de la période parisienne qu'on n'a pas parce qu'elles sont dispersées chez des aïeuls. Donc voilà, ça a été tout un travail comme ça d'enquête et de rassemblage d'archives.
Et les archives qui manquent n'ont pas nuit, à votre avis, à l'intérêt général de ce livre ou... Voilà, ça reste un peu frustrant.
Bah, c'est évidemment frustrant. Ouais. Et d'ailleurs, si qui que ce soit qui nous écoute a des archives à fournir, il ne faut pas hésiter. Bien sûr que c'est frustrant. Mais il y a beaucoup de choses encore à dépouiller. Et je pense qu'on n'a pas fini. En tout cas, la parution du livre m'a permis de continuer à échanger avec des gens qui étaient, par exemple, des jeunes femmes qui étaient les élèves des Sœurs Nardal et qui viennent parfois à des lectures, des choses comme ça, m'apporter c'est un texte qu'on avait écrit avec le journal. Ah, je me souviens de telle anecdote sur tel professeur. Donc j'espère pouvoir un jour réécrire une préface où je réintégrerai toutes ces nouvelles informations.
Qu'est-ce qu'elles vous disent, par exemple?
Elle me raconte beaucoup. Alors, souvent, les anciennes élèves en Martinique, elles racontent la façon dont les Sœurs Nardal leur ont inculqué une manière d'être de jeunes femmes libres, indépendantes et travailleuses. Elles étaient vraiment dans cette forme de rigueur intellectuelle qui les a beaucoup inspirées et qui ressort vraiment chez beaucoup de jeunes femmes. Et puis après, il y a aussi des correspondances plus intimes, des choses sur, vous avez vu, ça reste des étudiants à Paris dans les années 20, donc on se doute qu'il y a des amourettes, des amourettes parfois déçues, donc c'est des choses comme ça, mais je ne peux pas trop en dire plus pour l'instant.
Bon, tant pis. Quel distinguo faites-vous personnellement entre assimilation et intégration ?
Je dirais que l'assimilation, c'est un processus politique et peut-être un peu volontariste, et que l'intégration, c'est le processus social et ce qui finit par se faire. Je dirais ça, mais enfin quand même, la question est difficile. Hein.
Oui, elle est difficile. elle mériterait un long développement, mais enfin, on voit quand même, vous avez dessiné les lignes de ces deux mots adossés à des idées qui ne sont pas forcément exactement les mêmes.
En tout cas, pour la Martinique, c'est vrai que ce processus d'assimilation, c'est cette idée aussi que les descendants d'esclavisés, afro-descendants, afro-caribéens, 3 ou 4 générations après, se considèrent comme totalement français hexagonaux, en ayant peut-être aussi parfois un petit peu oublié ce qui constituait leur culture, leur singularité.
Tout en
reconnaissant aussi tout ce qui est le collectif. C'est ce qui faisait aussi la force de la pensée des Sœurs Nardal, de retrouver le dénominateur commun, l'universel, mais en rappelant aussi qu'elles avaient une culture singulière, propre à la Martinique, propre à la culture caribéenne, propre à la culture afrodescendante.
Dernière question sur la Martinique, hein, plus généralement. Qu'est-ce qui mobilise les Martiniquais aujourd'hui, là, au moment où on parle, à la fin de l'année 2025?
Vous savez, il y a eu un non-lieu qui a été prononcé en 2023 dans l'affaire de l'empoisonnement au chlordécone, donc ce pesticide qui continue de rendre très très malade beaucoup d'anciens ouvriers et ouvrières agricoles. Et en fait, il y a un nouveau délibéré qui doit être prononcé en 2026 pour savoir si l'enquête sera rouverte. Ça, c'est une des dernières preuves de la profonde injustice coloniale que continue de subir la Martinique, et c'est un dossier qui continue de nous empoisonner dans tous les sens du terme.
Ah oui, au propre comme au figuré.
Exactement.
Évidemment. Bien, merci infiniment Léa Mormin-Chauvac. Je rappelle le titre de votre livre, Les Sœurs Nardal, à l'avant-garde de la cause noire, livre publié cette année aux éditions Autrement. Il me reste à vous remercier et vous saluer.
Merci à vous.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Martinique, les Sœurs Nardal, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Élise Christophe.